Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très très heureuse d'être là aujourd'hui en ce rendez-vous incontournable, du moins je l'espère, que Canal M vous propose tous les vendredis avec cette émission Le National. Qu'est-ce que Le National ? Ah, peut-être n'êtes-vous pas encore familier avec cette émission hebdomadaire. Eh bien, c'est une émission qui vous permet de rattraper peut-être ce que vous n'avez pas réussi à entendre dans la semaine, dans une émission ou dans une autre. Alors on réalise comme ça une espèce d'émission dans laquelle on met tous ces segments, tous ces extraits qui nous semblaient d'intérêt public et surtout d'intérêt général d'Est en Ouest sur notre territoire. Alors aujourd'hui, on va retourner pour commencer dans l'émission Accès Libre animée par Benoît Racette le mardi à midi, je vous le rappelle, et à 17h. Vous en avez forcément entendu parler, que ce soit ici à Canal M ou sur d'autres tribunes. Vous avez entendu parler de cette consultation pour un Canada accessible, une consultation essentielle. Mais là, on se pose des questions. Quelles sont les attentes, par exemple? Quelles sont les questions que des personnes qui vivent avec une déficience visuelle peuvent poser au cours de cette consultation?
Canada accessible. Cette vaste consultation qui doit donner lieu à une loi canadienne sur l'accessibilité crée des mouvements un peu partout et plusieurs organismes en profitent pour consulter leurs membres. Donc, ce fut le cas du regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain avec nous pour témoigner des préoccupations des personnes aveugles qui sont engagées dans son organisation. Jean-Marie Damour, premier vice-président de l'organisme. Bonjour, M. Damour.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous. Très bien. Donc, avant tout, les consultations vont être considérées pour que la ministre Carla Caltrow puisse proposer une loi. Est-ce que vous croyez que vos membres au regroupement sont confiants que cette future loi va pouvoir améliorer leur vie?
On l'espère, du moins.
Vous espérez?
On a eu une rencontre récemment avec un conférencier qui nous a permis de mieux comprendre la portée que pourrait avoir cette loi-là, les limites aussi, parce que comme c'est une loi fédérale, il faut qu'elle se concentre sur les champs de compétences du gouvernement fédéral, comme les transports, les télécommunications, les banques, etc. Donc, évidemment, il y a beaucoup d'autres questions qui nous intéresseraient, mais qui ne relèvent pas du gouvernement fédéral, qui relèvent plutôt du gouvernement provincial. Alors, c'est sûr qu'il faut se concentrer sur les choses qui concernent le gouvernement fédéral, mais entre autres dans les préoccupations que les gens mentionnaient autour de la table lors de cette conférence, il y avait la question des normes.
Ah, les normes, donc, on parle des normes même de fabrication, de tous les produits et services à travers le Canada.
Effectivement, le Conseil canadien des normes, c'est un organisme qui relève du gouvernement fédéral, où les utilisateurs, en particulier les utilisateurs ayant des limitations fonctionnelles, sont peu présents, pour ne pas dire absents.
Ah oui.
Alors, et pourtant, il y a beaucoup de ces normes-là qui nous concernent et qu'on voudrait voir améliorées pour qu'elles soient plus inclusives.
Qu'est-ce que ça veut dire? Puis quel produit dont vous parlez exactement?
Ben, on pense entre autres aux terminaux de points de vente qui sont utilisés dans les commerces.
Oui, c'est fréquent ça, oui.
On a déjà acheminé des revendications au gouvernement fédéral à ce sujet-là.
Okay.
On s'est adressé aussi directement aux banques, mais on pense que probablement que si on passait par le Conseil canadien des normes, on pourrait bonifier ou obtenir une norme canadienne à cet effet-là et améliorer la situation de beaucoup de personnes, particulièrement les personnes aveugles, mais aussi des personnes malvoyantes, là, parce que dans nos revendications, il y a des...
Oui, c'est impliqué,
il y a des revendications aussi qui concernent les personnes malvoyantes, là, comme des meilleurs contrastes, par exemple, au niveau de l'écran. Alors, je veux dire, ça c'est un des exemples de ce que une loi fédérale pourrait apporter, là.
Et puis, est-ce que vous diriez que c'est ça les priorités, donc des meilleures normes pour les produits ou services et peut-être aussi l'accès aux banques?
L'accès aux banques...
Ou l'accès aux terminaux, disons.
Au niveau des banques, ils ont des obligations au niveau de l'équité en emploi.
Mm-hmm.
Qui concernent les personnes handicapées, mais qui n'ont pas toujours l'air... En fait, on ne sait pas si ces obligations-là sont vraiment obligatoires, s'il y a un suivi qui est fait, s'il y a... parce que c'était une des préoccupations aussi des gens à cette rencontre-là, c'est bien beau énoncer des principes et de belles choses, mais encore faut-il que ça rentre en application et qu'il y ait des organismes qui soient chargés de surveiller cette application-là, okay, puis de s'assurer que ça passe vraiment dans la pratique.
Et donc, non seulement de surveiller, mais j'entends presque dans votre préoccupation, est-ce qu'il y aura des contraintes pour les gens qui appliquent ces normes?
Des contraintes et des conséquences,
oui,
aussi pour ceux qui n'appliqueraient pas les bonnes choses.
Bon. Donc, on avait fait plutôt une émission spéciale en septembre dernier. Le RAC, organisme dont vous êtes membre d'ailleurs, le Regroupement, oui, des aveugles et amblyopes du Québec, parmi ses constats, disait qu'il y avait une très faible documentation sur l'accessibilité pour les personnes aveugles, et ce, partout au pays. Est-ce que vous allez revendiquer des meilleures recherches ou évaluations de l'accessibilité?
Oui, certainement. Au niveau de l'accès à l'information, entre autres, qui est une grande préoccupation pour nos membres.
Mm-hmm.
On souhaite qu'il y ait encore là des normes qui ne soient pas seulement... Le gouvernement fédéral s'est déjà imposé des normes, mais on souhaite que, via cette loi-là, on impose ces mêmes normes-là à différents secteurs sous contrôle fédéral, si on peut dire. Là, les banques ont une démarche volontaire jusqu'à maintenant, mais dont on ne connaît pas nécessairement la portée, mais les résultats, disons.
Okay.
Le CRTC a pris des initiatives aussi à l'occasion des renouvellements de permis pour imposer des choses, mais c'est pas toujours très clair ce qu'on demande effectivement aux diffuseurs. Alors, il y a lieu de
clarifier. Donc, vous voulez qu'on on clarifie puis on étaye tout ça, dans le fond. Non seulement ce qu'on demande, mais ce qu'on
veut. Aussi, là.
OK, qu'on uniformise. OK.
Oui.
Bon, bien. Écoutez, il reste pas beaucoup de temps notre entrevue, mais j'aimerais beaucoup savoir, est-ce que vous allez de cette consultation qui se tiendra le 16 novembre prochain pour faire valoir,
oui,
vos revendications? Donc, j'invite les gens, non seulement vos membres, mais aussi les personnes aveugles, pour participer à la consultation. Il est possible de le faire en allant sur Internet via « Consulter les Canadiens au sujet d'une loi prévue sur l'accessibilité ». Donc, vous pouvez trouver ça sur Google. On va le mettre aussi sur notre site web du Canal M, le lien. Et n'oubliez pas aussi de vous exprimer lors de la consultation qui sera le mercredi 16 novembre au Palais des Congrès à Montréal. Donc, vous allez être là, c'est ça?
Oui, certainement.
Bon, alors on a quelques idées de ce que vous allez porter à ce moment-là. Merci beaucoup, M. Jean-Marie Damour, vice-président principal du RAM.
Merci beaucoup.
Au plaisir.
Bonne journée.
Voilà, j'espère que ça nous aura éclairé un petit peu sur les attentes et les questions des personnes vivantes avec une déficience visuelle dans le cadre de cette essentielle consultation pour un Canada accessible. Maintenant, on va rester avec Benoît Racette, on va rester dans l'émission Accès libre et on va aller retrouver Benoît en compagnie de Patrick Fougerolas du Réseau international sur le processus de production du handicap, donc le RIP. De quoi s'agira-t-il? Eh bien, il s'agit de nous parler du colloque international pour une ville inclusive qui aura lieu à Québec les 8 et 9 novembre prochains.
Le Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale organise un colloque international qui va se tenir les 8 et 9 novembre prochains. Le thème « Pour une ville inclusive, innovation et partenariat » et avec nous pour en parler, l'incontournable anthropologue pour le mouvement des personnes en situation de handicap, Patrick Fougerolas. Bonjour!
Bonjour, bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Avant tout, j'ose vous demander, pourquoi c'est le bon moment pour insister sur la ville inclusive?
Je pense que c'est la ville inclusive, hein, c'est un projet qui demande la mobilisation de beaucoup de monde.
C'est sûr.
Et actuellement, chacun souvent travaille un petit peu dans son coin. C'est véritablement une occasion, je pense, dans le cadre de ce colloque, d'inviter là, tous les partenaires à réfléchir, à mettre en commun leurs idées, leurs innovations, et véritablement à passer à l'action. C'est un petit peu le message de ce colloque-là, dans le sens où tout le monde parle d'inclusion, d'approche inclusive,
Mais qu'est-ce que c'est? Justement, donc c'est important de savoir qu'est-ce que c'est l'approche inclusive, puis quels sont les résultats, c'est ce que vous dites.
Oui, c'est ça, les résultats sont souvent à attendre. Ben, l'approche inclusive, hein, c'est vraiment d'avoir un habitat, un environnement qui permet à la population, dans toute sa diversité, c'est sûr que dans le colloque, on va insister beaucoup sur la diversité fonctionnelle de la population, mais en réalité, ça doit aussi s'articuler avec l'ensemble de la diversité de la population sur le plan de l'âge, sur le plan du genre.
Les personnes racisées aussi.
Exactement, oui. Donc, l'inclusion, c'est ça. Donc, en fait, l'inclusion, c'est pas quelque chose qu'on fait aux personnes, hein, véritablement. C'est vraiment une conception de notre contexte de vie, de notre environnement, et une transformation de cet environnement-là pour le rendre conforme à l'exercice, en fait, pour permettre aux gens de réaliser leur quotidien et d'exercer leurs droits.
Donc, tout le monde, en même temps, construise la société. C'est un peu ce que vous faites aussi dans le cadre de ce colloque-là. Vous appelez des gens d'un peu partout, juste pour les grandes lignes, des grandes conférences, des ateliers de co-création, deux panels sur les enjeux de l'innovation. Qu'est-ce qu'il ne faudrait pas manquer dans votre colloque là, qui se tient la semaine prochaine? Est-ce qu'il y aurait peut-être quelque chose à identifier?
Il y a plusieurs grands conférenciers. Il y a Jean-Baptiste Richardier, qui est le fondateur d'Handicap International, qui a eu la gentillesse de venir ouvrir le colloque avec sa perspective de l'urbanisation, je dirais, un peu sauvage dans les pays du Sud, où les personnes handicapées qui vivent des situations de handicap sont parmi les plus pauvres et en général particulièrement oubliés, en particulier dans les situations de crise ou de guerre, où ce sont les personnes qui souffrent le plus et dont on parle jamais. Donc, il va nous amener cette perspective-là. On va avoir Joseph Rousseau, qui est le commissionnaire à l'accessibilité de la ville de Chicago. La ville de Chicago est souvent citée en exemple pour son accessibilité universelle. Donc, il va nous expliquer un petit peu comment on doit mettre en œuvre les règles en lien avec l'American Disability Act et les règles par rapport à l'accessibilité. Donc, c'est des choses très intéressantes. Laurence Parent, qui va nous amener, que beaucoup connaissent, qui va nous amener son regard plus politique sur les attitudes, sur ce qu'on appelle le capacitisme.
Oui, un concept qui n'est pas encore très utilisé, très important au Québec, mais qui, en fait, Laurence Parent est maintenant une des voix fortes là, qu'il porte.
Exactement, c'est très, très, très important. Parce que quand on pense à l'accessibilité, souvent, on projette l'accessibilité de l'aménagement physique, hein, donc urbaine et tout cela. Mais moi, je vais en particulier insister là-dessus. Le concept d'accès inclusif, c'est pas simplement l'accessibilité architecturale, c'est aussi ce qu'on appelle l'acceptabilité, donc les
représentations. Donc c'est les attitudes qui peuvent être discriminatoires. Il faut aller contre
exactement.
Ça aussi.
Attitude des architectes, attitude des urbanistes qui conçoivent la société pour des personnes qui sont performantes Et donc, ils n'ont pas dans leur approche cette conception justement inclusive qui est absolument essentielle. Mais bien entendu, ça ne s'invente pas, ça ne s'enseigne pas encore beaucoup. Donc, l'objectif d'un colloque comme celui-là, c'est justement de partager les savoirs, hein, les bonnes pratiques, et de savoir que, qu'on soit un organisme communautaire, un activiste, un employé municipal, un architecte, on ne peut pas faire les choses soi-même. Il faut que ce soit une approche participative et partenariale.
Donc, ça veut dire qu'il faut consulter. C'est un peu l'autre message que vous dites. Donc, on veut une ville inclusive, on veut innover, bien sûr, mais de l'autre côté, il faut faire des partenariats, il faut que les gens se parlent. C'est ce que
oui,
vous dites.
C'est ça. Et donc, c'est un peu dans... Il faut réfléchir à la gouvernance de ce projet. Hein. L'approche inclusive, c'est un projet pour lequel il faut se mobiliser, comme je disais, comme passer à l'action. Et ça, ça demande la concertation d'un ensemble de partenaires et bien entendu au premier plan des personnes qui ont l'expertise de moins bien voir, de moins bien entendre, de moins bien se déplacer, d'avoir de la difficulté à comprendre.
Oui, qui connaissent les besoins. qui connaissent exactement les besoins. J'ai envie de vous demander, avant qu'on poursuive, on entend bien là, les personnes qui sont conviées, qui participent à ce colloque-là, mais donc, ça ne s'adresse pas seulement aux chercheurs. Est-ce que les personnes qui n'ont pas nécessairement de chapeau, hein, qui n'ont pas le chapeau chercheur, organisme communautaire, etc., les personnes aveugles aussi qui nous écoutent, est-ce que ces personnes sont aussi bienvenues au colloque?
Bien sûr, bien entendu, et... Elles sont quand même importantes. On attend 200 participants et un petit peu plus. Et une bonne partie vient du milieu, donc des organismes ou des personnes elles-mêmes, sans qu'elles soient obligatoirement représentent un organisme de défense de droits, mais des personnes aussi dans le champ de l'accessibilité et des personnes intéressées à apporter leur expertise. Elles sont, je dirais, à peu près 80 personnes du milieu communautaire. On a des personnes des municipalités, des architectes, et on a aussi quand même à peu près un 20% de participants internationaux, incluant des personnes, par exemple, de l'Association des paralysés de France.
Ah oui, la très, très grande association qui se bat beaucoup là, pour la mise en place d'une loi en France.
Oui, qui est vraiment un des interlocuteurs majeurs pour la mise en place de la loi de 2005, qui visait l'accessibilité puis qui rencontre bien des obstacles dans la mise en œuvre aussi en France.
Ouais.
Je pense qu'on a tous besoin là de se donner des modes de concertation pour arriver à de véritables résultats.
Résultats, vous le dites souvent, c'est heureux, on espère en trouver. Mais avant qu'on passe à autre chose, j'avais peut-être même une petite colle. Est-ce qu'on peut faire rimer ville inclusive et hiver québécois? Est-ce que vous croyez à ça?
Oui, il y a des présentations. On a, dans notre centre de recherche, notre équipe s'appelle Participation sociale et ville inclusive. C'est une équipe de recherche. Et on a un de nos chercheurs, Ernesto Morales, qui travaille justement sur le défi, l'enjeu, comment on tient compte justement de l'hiver. Et moi, j'aime bien dire que le handicap, c'est situationnel. Hein,
oui, c'est une situation.
Donc, on rencontre des situations de handicap aggravées en contexte hivernal. Est-ce qu'il y a des solutions? Il y en a, effectivement. Elles ne sont pas toujours faciles à mettre en œuvre, mais on a aussi des exemples avec les pays scandinaves. Hein. Il y a des endroits où il y a des trottoirs chauffés.
Ah oui! Ben ça ferait le bonheur du maire Coderre qui l'avait annoncé à un certain moment à Montréal pour Sainte-Catherine-Ouest. En tout cas, juste avant qu'on conclue cette entrevue avec vous, je veux seulement rappeler que c'est le 30e anniversaire du RIPPH, le Réseau international de processus de production du handicap, cette année. Et plus encore, votre organisation, dont vous êtes le fondateur, est finaliste au prix à part entière. Alors, félicitations!
Ben, merci beaucoup.
Je suis assez content qu'on finisse par reconnaître votre très nécessaire expertise. En fait, ben, vous avez déjà été reconnu à maître prise, mais on espère, en fait, on vous souhaite bonne chance pour ce prix-là. Et pour les gens qui ne le savent pas d'ailleurs, depuis 1998, Patrick Fujirulas et d'autres ont développé une théorie essentielle qui a voyagé même jusqu'à l'Organisation mondiale de la santé. Donc, comme il reste quelque chose comme 40 secondes, les gens qui veulent en savoir plus, est-ce qu'ils peuvent avoir accès à la web diffusion?
Je pense pas, non.
Ah non, ok, je suis désolé. Je n'avais pas vu ça nulle part. Je m'excuse pour les attentes. Mais donc, allez-y, ça veut dire qu'il faut y aller les 8 et 9 novembre prochains au pavillon Alphonse Desjardins à l'Université Laval.
Et on va enregistrer tout le... En tout cas, ce ne sera pas la web diffusion en direct, mais toutes les communications et conférences sont enregistrées. Et donc, on va avoir un contenu vidéo et tout ça qui pourra être mis à la disposition des gens. Mm-hmm. On va lancer une plateforme qui va www.villeinclusive.com qui va devenir une plateforme centrale pour continuer la concertation, le partenariat. Et je vais inviter tous vos auditeurs à y participer. Et peut-être pour finir, dire qu'on va lancer la Déclaration de Québec, qui est véritablement un appel à l'action de l'ensemble des partenaires pour s'engager solidairement à travailler ensemble, à partager leur savoir et à continuer à travers cette plateforme à collaborer pour vraiment mettre en place de véritables villes inclusives.
Merci, c'est un excellent mot de la fin. Patrick Fujirulas, qui est non seulement chercheur émérite, mais aussi co-président du comité scientifique du colloque. Et on retrouve aussi de l'information sur la programmation de l'événement du 8 et 9 novembre prochain sur ripph.qc.ca. N'hésitez pas à y aller. Et donc, merci. Au plaisir de vous entendre de nouveau.
Merci beaucoup, Benoît.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Aujourd'hui, la fumée d'incendie a jauni le ciel et rougi le soleil. Les étoiles du nord nous rappellent la mort et tu m'appelles encore. Tu dormais sur le banc tandis que je conduisais et j'espère ne jamais arriver. Regarde les étoiles. Tant qu'il y aura des étoiles sur le bord de la route, nous devrons nous arrêter. Tant qu'il y aura des rivières, nous pourrons nous baigner. Et tant qu'il y aura le feu, nous irons peu à peu, été comme hiver. Vagabond, millionnaire, amoureux, milliardaire. Vagabond, millionnaire, amoureux. Le temps passe et un jour on est vieux et puis seul et rien ne reste plus que la fierté d'avoir aimé correctement ou la honte et les tourments de ne pas avoir compris. Attends, attends, j'ai quelque chose à te dire. Sur le bord de la route, nous pourrons nous arrêter. Tant qu'il y aura des rivières, nous pourrons nous baigner. Et que plus jamais rien ne redoute d'autre destin que celui du doute. Jamais je n'oublierai les étoiles sur la route de Toronto, et ce jour sera... sur cette plage du lac Ontario. Millionnaire, amoureux, milliardaire, vagabond. Millionnaire, amoureux.
Tous les jours de 11h30 à midi, je suis aussi très très heureuse de vous retrouver pour vous présenter les paractualités. Les paractualités, c'est pas forcément des nouvelles tristes ou c'est pas forcément des dossiers chauds, c'est parfois aussi simplement des bonnes nouvelles ou des belles histoires. Eh bien, voici celle d'un petit garçon. Nouvelle nationale maintenant, né avec une rare malformation qui l'a laissé pratiquement aveugle, un petit garçon de Selric au Manitoba a pu pour la première fois de sa vie contempler le visage de sa mère grâce à des lunettes électroniques. Lorsqu'il a mis ses fameuses lunettes, on a su que ça fonctionnait car son premier mot a été « Wow !» a raconté la mère de Benny, Jenna Kaysen, à CBC. Le garçon de 6 ans a ensuite versé quelques larmes avant de dire à sa mère « qu'elle avait un gros nez », a poursuivi cette dernière en riant. Née avec l'amaurose congénitale de Leber, qui est une maladie génétique rarissime qui affecte entre 2 et 3 nouveau-nés sur 100 000, Benny a une vision de 20 sur 400. Légalement considéré comme étant aveugle, il parvient à peine à distinguer les silhouettes et les couleurs autour de lui. Grâce à une campagne de financement menée sur le site GoFundMe, la famille de Benny est parvenue à recueillir 25 000 $ auprès de près de 200 personnes. Et cette somme a permis de procurer une paire de lunettes électroniques eSight au garçon d'une valeur de près de 20 000 $ canadiens. Petite merveille technologique, les lunettes sont dotées d'une caméra qui capte en temps réel les images et les retransmet sur des écrans placés vis-à-vis des yeux. En plus de payer les lunettes, la somme offerte par les donateurs servira à aider le petit frère de Benny, Ashton. Il est atteint de la même maladie, mais lui, il est complètement aveugle et autiste. Ce petit garçon recevra des séances, entre autres, d'équitation thérapeutique. Ah, mon Dieu, qu'il est plaisant de lire et d'entendre des nouvelles comme celle-ci. Il me semble tellement bien imaginer ce môme qui découvre pour la première fois le visage de sa maman grâce à ses lunettes-là. La première chose qu'il trouve à lui dire, c'est « t'as un gros nez ». En même temps, c'est tellement ça l'enfance. Alors, restez des nôtres. Je vous rappelle que c'est Clotilde Seille qui vous accompagne en ce vendredi sur Canal M. Et c'est l'émission Le National qui va se poursuivre dans quelques minutes. Alors soyez les bienvenus à cette émission Le National, c'est la seconde partie, c'est toujours animé pour vous par Clotilde Seille sur les ondes de Canal M. Alors retour sur d'autres extraits qui ont été diffusés cette semaine sur nos ondes. On va commencer avec un segment présenté par Marianne Paquette dans le cadre de son émission « C'est bon pour la santé ». Saviez-vous qu'il existait et qu'il existe un laboratoire vivant de réadaptation ? Et saviez-vous que ce laboratoire développe en ce moment un jeu vidéo pour pratiquer l'utilisation d'un fauteuil roulant motorisé ? Eh bien, on va en savoir plus grâce au docteur Philippe Archambault, qui fait partie de ce laboratoire vivant.
Pour le moment, Dr Philippe Archambault est au bout du fil. Bonjour, Philippe Archambault.
Bonjour.
Vous êtes professeur agrégé à l'École de physiothérapie et d'ergothérapie à l'Université McGill et chercheur pour le CRIR. C'est une façon un peu plus courte de dire Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation.
Exactement, oui.
On parle aujourd'hui ensemble des technologies au service de la réadaptation et c'est important d'entrée de jeu, je pense, de dire que vos recherches évoluent au sein du Living Lab ou du laboratoire vivant et je pense qu'il faut expliquer ce que c'est le laboratoire vivant là, chez Alexis Néon pour les gens qui nous écoutent.
Bien oui, c'est un projet qui regroupe la plupart des chercheurs du CRIR, donc des chercheurs affiliés à l'Université de Montréal, à McGill, à l'UQAM, d'autres établissements aussi. Et puis, on est en partenariat avec la Plaza Alexignon qui nous ouvre leurs portes pour qu'on puisse faire des expériences dans les lieux. Donc, ça a été de faire des expériences sur l'accessibilité, sur la formation des employés, sur l'utilisation des lieux par des personnes qui avaient de la mobilité réduite et toutes sortes d'autres projets là, donc, qui ont pu avoir lieu là-bas puis continuent d'avoir lieu aussi.
Il y a à peu près 60 projets, je pense, Philippe Archambault.
Oui, tout à fait. Il y a une soixantaine de projets donc qui se sont déroulés sur les 4 dernières années, si je ne me trompe pas. Et puis, ça allait autant au niveau social que physique. L'utilisation des technologies était impliquée là-dedans. Donc, on ratissait quand même assez large.
Bon, dont le vôtre, et on est là pour parler de ce jeu qui s'appelle MIWI. Est-ce que je le prononce comme il faut?
Oui, c'est ça. C'est l'acronyme que j'ai donné. C'est en fait un simulateur de conduite en fauteuil motorisé. Donc, le but, c'est vraiment d'avoir un outil qui permet aux gens de pratiquer différentes tâches de fauteuil motorisé à leur domicile sur une application, un logiciel d'ordinateur.
Donc, le jeu s'adresse à des gens qui vivent avec une déficience physique.
Oui, donc déjà, on s'adresse vraiment à des nouveaux utilisateurs de fauteuils roulants.
Okay.
Souvent, il peut y avoir une longue période, là, une fois que les gens se font attribuer un fauteuil avant qu'ils le reçoivent. Des fois, ça peut demander quand même un certain apprentissage, une certaine confiance en soi pour sortir aussi, puis pour aller dans d'autres lieux. Et puis, on vise vraiment à donner un complément à l'entraînement qui peut être donné en centre de réadaptation.
De quelle façon le jeu permet de mieux se dépatouiller avec un fauteuil roulant?
Bien, on a le lien avec le Living Lab, avec la Plaza Alexignon, c'est qu'on a vraiment procédé par des entrevues avec des utilisateurs de fauteuils roulants, avec des cliniciens, donc on les invitait au centre d'achat. Puis, ça nous servait un peu de prétexte pour parler avec eux, avec ces gens-là, puis avoir leur opinion sur qu'est-ce qui était problématique, qu'est-ce qui était un défi, surtout pour les nouveaux utilisateurs. Et puis, à partir de ça, on a pu constituer différents scénarios pour notre application. Par exemple, on a essayé de faire ça vraiment le plus concret possible. C'est pour ça qu'on demandait aux gens beaucoup de détails. Donc, on a une salle de bain adaptée, on a un genre de hall dans un centre d'achat où il y a beaucoup de gens, donc pour apprendre à circuler dans une foule. On a un ascenseur qui est souvent, qui peut être difficile à cause de, c'est un espace un peu restreint, et puis des fois, s'il y a d'autres gens présents qui font pas nécessairement attention. On a un supermarché aussi où la personne doit circuler à l'intérieur puis faire ses courses un peu là. Puis donc elle a une liste d'épiceries et puis qu'elle doit remplir. Alors c'est un peu toutes sortes de mini-jeux là. Chacun dure autour de 2 minutes à peu près maximum. Et puis comme ça avec des éléments de jeu donc un peu aléatoires pour que ce soit pas trop répétitif.
Et que ce soit réel aussi.
Ouais.
Ce sont des mises en situation qui peuvent réellement arriver dans la vie. Il y a des niveaux de difficulté qui sont différents. De rencontrer ces personnes qui vivent avec une déficience physique, Philippe Archambault, ça vous a permis, j'imagine, de mieux connaître leurs besoins. Qu'est-ce que vous avez retenu?
Bien, c'est vraiment une richesse. Je pense que c'est la première. Moi, c'est quelque chose, une façon de faire à laquelle je crois beaucoup. En anglais, on dit le user-centered design, un design centré sur l'usager.
Mm-hmm.
Donc, c'est vraiment d'impliquer les gens dans le développement de technologies. Je pense que ça nous ouvre les yeux, on peut lire des choses, on peut s'imaginer selon notre expérience clinique, mais des fois, la façon dont c'est vécu par les gens, ça peut être assez différent. Même en clinique ou en recherche, on peut avoir notre perception, mais quand c'est transmis dans la réalité, Ça donne beaucoup d'autres choses. Là. Par exemple, je pense qu'une des choses qui m'avait frappé, un des points qui m'avait frappé dans les entrevues, c'est à quel point plusieurs personnes nous disaient que des fois l'imprévu qui peut les surprendre ou qui peut les rendre une situation encore plus compliquée. Ouais. Par exemple, une boutique ou un supermarché peut être accessible généralement, mais là, c'est la période des fêtes et puis il y a des kiosques de plus ou il y a des présentoirs de plus, puis soudainement, ben ça passe plus ou ça passe pas comme ça passait d'habitude. Alors, des fois, ça, c'est quelque chose auquel j'avais, par exemple, pas pensé du tout.
Oui, c'est ça. Et c'est une façon aussi, ça, c'est intéressant, de sensibiliser les commerçants à la réalité des personnes qui vivent en situation de handicap. Est-ce que vous avez eu un retour d'eux également?
Au niveau des commerçants, non. J'avoue que c'est pas quelque chose qu'on a fait. Il y a d'autres projets où ils ont regardé ça. Ils ont fait de l'entraînement, une formation aux commerçants pour les aider à accueillir des gens qui avaient différentes incapacités, que ce soit au niveau mobilité ou audition ou visuelle, pour finalement un peu apprivoiser ces situations-là. Puis je sais que ça a donné des assez bons résultats. Les gens se sentaient beaucoup plus en confiance. Puis les personnes avec déficience se sentaient plus à l'aise aussi dans ces commerces-là.
Quels sont les obstacles rencontrés le plus souvent par des personnes qui débutent ou commencent à utiliser un fauteuil motorisé?
Bien, ce qui ressortait beaucoup, c'est vraiment les espaces exigus, comme les salles de bain, des fois qui peuvent être indiquées comme adaptées, mais qui ne sont pas nécessairement. Quand il n'y a pas beaucoup d'espace pour manœuvrer, c'est compliqué. Les gens, les foules aussi, c'est une crainte, parce que les gens ne veulent pas rouler sur des orteils là, ou même blesser du monde parce que qu'ils les voient pas ou qui passent trop vite. On peut dire que même dans un espace exigu, bon, on peut dire au pire, on va foncer dans le mur ou quelque chose comme ça, mais les gens veulent pas non plus, même si c'est que des dommages matériels, veulent pas non plus faire des égratignures puis endommager des cadres de porte puis des choses comme ça. Alors, c'est normal. Les gens sont respectueux de l'environnement. Et puis...
Il y a la crainte de se blesser aussi, peut-être, parfois.
Il y a la crainte de se blesser, effectivement.
Ben oui.
Mais c'est beaucoup aussi la crainte de rester pris, surtout si les gens voyagent tout seuls. Ils ont des problèmes de la mobilité réduite. Ils veulent pas avoir appelé le dépannage. Il y a des services de dépannage qui existent, mais je pense que la plupart des gens voudraient éviter d'être dans des situations où ils pourraient rester pris pendant des longues minutes ou des heures parce qu'ils sont dans une situation où ils sont pas capables de...
Oui, il y a un désir d'autonomie assez grand derrière tout ça aussi.
Tout à fait, oui.
Ça, c'est important. Vous y contribuez notamment avec MiWi, qui justement est distribué. De quelle façon est-ce que vous envisagez ça?
Pour l'instant, c'est le projet de recherche se termine, donc on n'est pas encore en train de faire du développement, mais tant que ça reste un projet de recherche, je le garde un peu dans notre équipe. Mais après ça, le but, ce serait vraiment de le distribuer probablement au début au travers les centres de réadaptation au Québec et ailleurs, qui eux pourront le gérer comme bon leur semble, soit faire ajouter ça à leurs problèmes, programme d'entraînement ou bien peut-être le distribuer aux personnes. La seule raison qui me retient un peu de distribuer
le jeu
de façon générale, c'est juste que j'ai pas les moyens d'offrir le support technique.
Ouais.
Donc toute l'installation puis
l'argent, le nerf de la guerre.
C'est plus les ressources que peut-être un peu l'argent là, mais c'est sûr que je pourrais le distribuer sans garantie, mais j'aimerais m'assurer quand même que ça fonctionne.
Si vous avez fait, Philippe Archambault, 50 entrevues, c'est qu'il y a 50 usagers en ce moment qui profitent du jeu et qui peuvent explorer davantage les différentes facettes là, pour pouvoir utiliser de meilleure façon un fauteuil motorisé?
Oui, dans le projet de recherche, il y a eu différentes phases. Donc, les premières phases où on a fait des entrevues, puis ensuite, ça nous a permis de développer le jeu, l'application, puis une autre phase où on a ciblé des nouveaux utilisateurs de fauteuils roulants qui, eux, l'utilisent, puis on regarde les effets que ça a sur leurs habiletés de conduite.
Mm-hmm. En terminant, Philippe Archambault, vous êtes à la fin de cette recherche-là. Est-ce qu'il y a autre chose pour vous en matière de recherche en ce moment avec votre équipe?
Il y a plusieurs projets, mais pour continuer avec le simulateur, on essaie de faire une version pour le fauteuil manuel et puis aussi une version pour les scooters électriques.
Ah, c'est donc bien chouette, ça.
Oui, oui, oui.
Vous allez revenir pour nous en parler?
J'espère bien. Pour l'instant, on est vraiment plus au niveau technique. C'est en fait un peu plus compliqué au niveau de la mécanique, si je peux m'exprimer comme ça. Mais donc, ça va peut-être prendre quand même un certain temps avant d'avoir un produit qu'on pourra tester. On se dirige vers ça.
Docteur Philippe Archambault, vous êtes professeur agrégé à l'École de physiothérapie et d'ergothérapie à l'Université de Montréal et chercheur au CRIR. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir.
Merci. Au revoir.
Il y a une émission que je connais évidemment peut-être un peu plus encore et un peu mieux et un peu plus en profondeur que les autres. C'est l'émission « Des livres plein les oreilles » que j'anime pour vous le jeudi à midi et c'est en reprise à 17h. Cette émission qui vous permet justement de vous mettre, ou du moins de vous proposer des livres à vous mettre dans les oreilles. Si vous êtes des fidèles, vous savez qu'une fois par mois, nous accueillons un chroniqueur vraiment exceptionnel, un type hors pair, un chroniqueur littéraire comme on en voudrait à toutes les émissions. Il s'agit de Gérald Cousineau. Eh bien, Gérald, cette semaine, nous parlait de « Encore » de Hakan Günde, un jeune auteur turc. Bonjour Gérald.
Bonjour Clotilde.
Alors Gérald, nous sommes tout ouïes, Francine, Agnès Gruda et moi-même, pour vous entendre nous parler de ce livre pas facile.
Non.
Qui s'appelle « Encore, encore oui, et encore ».«
Encore » de M. Hakan Günde, qu'on présente comme, je vous l'avais écrit, je pense, l'enfant terrible de la nouvelle génération des écrivains turcs. Bon, je connais peu, j'avoue, la littérature turque, alors je veux bien croire ce que l'on dit de ce M. Hakan Günde. Donc, « Encore », publié l'an dernier, en 2015, et il a quand même remporté le prix Médici étranger, 2015. Alors, c'est quoi ce livre costaud, hein, quand même, 371 pages, pour ceux qui vont l'écouter, c'est presque 12 heures d'écoute. Alors, nous sommes en Turquie, plus précisément dans l'Est, devant la mer Égée et aussi devant la Grèce. Et là, il y a un jeune homme, presque un enfant, hein, 9 ans, il s'appelle Gaza. Et le deuxième A prend un accent circonflexe. Ça veut dire aussi, c'est un peu le sens de combattant. Okay. Donc, Gaza est là, 9 ans. Il travaille avec son père comme, il exerce un noble métier, passeur de clandestins. Alors, il a quasiment abandonné l'école pour travailler avec son père et avec deux frères qui s'appellent Hermin et Dordor, des commandants de bateaux qui, justement, transportent les migrants de l'est de la Turquie à la Grèce. Alors, évidemment, c'est la vie de cet enfant qui nous est raconté dans Encore. Et je vous dis tout de suite que pourquoi le titre Encore, eh bien, c'est souvent, d'après ce que raconte le narrateur, qui est Gaza, c'est souvent le seul mot turc que connaissent les migrants. Donc, ils vont dire encore de l'eau, encore ceci, encore, encore, encore. Donc, voilà l'explication de ce titre du livre. Donc, c'est le quotidien difficile, on s'en doute, de ces gens-là. Et c'est étonnant parce que ce jeune homme, Gaza, qui est une sorte d'enfant torturé, parce que le père est cynique, brutal, et la police, bien sûr, est de mèche avec lui. La police est corrompue, comme on s'en doute. Donc, cet enfant-là, qui est à la fois torturé, va devenir, peu à peu, tortionnaire.
Oui.
Il va s'en prendre, bien sûr, aux migrants, et il va même transformer le dépôt où ces gens-là sont logés en transit. Ben, il va le transformer en une sorte de laboratoire avec caméra. Et là, c'est un passage vraiment très curieux, parce que ce jeune homme, j'ai envie de dire, malheureusement, est très brillant. Il y a un peu d'anthropologie dans ce Gaza. Donc, on a droit à quelques pages. Bon, ça, c'est peut-être un peu des... Enfin, on pourrait associer ça à des longueurs. Il y a des passages un peu longs sur le commerce des êtres humains, qui, selon lui, est le deuxième plus vieux métier du monde. Il y a des considérations sur la mort, et de longues considérations sur le pouvoir, la dynamique du pouvoir, et c'est ça à quoi ils travaillent dans le dépôt où sont conservés les... Oui, conservés est un mot juste, oui, ici, les migrants. Donc, c'est un livre très dur, mais il va arriver à ce jeune homme, à un moment donné, le camion qui transporte des clandestins et dans lequel il est lui-même... il est à bord de ce camion, va chavirer dans un ravin, et là, le père qui était au volant va mourir, et là, le jeune homme va comme expulsé du camion, il va se retrouver face à un muret, emprisonné là, littéralement, et là, les clandestins qui étaient dans le coffre du camion vont lui tomber littéralement sur la tête. Alors, on peut voir là une sorte d'image de la putréfaction, parce que ces gens-là, bien sûr, vont se décomposer, parce qu'il va passer des jours et des jours enterrés littéralement sous les cadavres de clandestins. Et là, bien sûr, putréfaction des corps, mais en même temps, on peut voir là une sorte de métaphore de la putréfaction qui est dans le cœur, qui sommeille dans le cœur des hommes. Donc, il va s'en sortir, et là, il va lui arriver un tas de choses, et il va se retrouver à l'hôpital, il va quasiment devenir fou, et là, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais il regrette une chose dans sa vie, dans sa jeune vie, c'est qu'il a fait mourir un jeune Afghan de 26 ans qui s'appelle Kuma, et cet Afghan-là lui avait manifesté de l'amitié, il lui avait remis une sorte de grenouille en papier sur laquelle il avait dessiné, vous savez, les fameux Bouddhas que les talibans ont détruits, ben, les Bouddhas de Bamiyan, ils étaient sur la grenouille et de papier, et ce monsieur, et ce jeune homme, Gaza, va conserver cette grenouille, et il va, à la toute fin du récit, retourner en Afghanistan, autrement dit, le pays d'où les gens souvent sortent pour aller en Grèce, lui, il va au contraire faire le voyage inverse, il va se retrouver en Afghanistan, il va se retrouver face au Bouddha, et là, je ne vous dirai pas ce qu'il arrive, mais c'est un périple pour le moins curieux. Oh là là!
Écoutez, la seule question là qui me vient à l'esprit, c'est parce que, bon, en dehors du fait que c'est évident, l'histoire est importante, est intéressante aussi, bon, le pouvoir, la lutte, etc., le drame des migrants, qu'est-ce qui peut bien animer ces passeurs-là, bon, etc. En une phrase, pourquoi est-ce qu'on devrait lire ce bouquin-là?
Moi, j'aime bien ce genre de romans qui sont pour moi de véritables coups de poing. Oui. C'est malheureusement, hélas, un sujet d'actualité, on le sait. Les migrants, il y en a beaucoup, les passeurs, il y en a encore, et ils font beaucoup d'argent sur le dos des migrants, et les migrants ne se rendent pas toujours à destination. Ne serait-ce que pour ça, je dirais que le livre vaut la peine d'être lu, et aussi parce que ce monsieur ne ménage pas le lecteur, et moi, j'aime bien que le lecteur ne soit pas ménagé. J'aime bien ça, être brassé dans mes certitudes. Et là, c'est vraiment le cas à Kangoundé, ne ménage pas le lecteur, il ne nous laisse rien, autrement dit, il ne laisse rien passer, il frappe dur, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il est à part dans la littérature turque.
Oui, certainement.
Mais je dirais que c'est un de ces livres-là qui ne sont pas, pour moi, du divertissement, pas du tout. C'est un livre dur, mais à mon avis, il vaut la peine d'être lu, malgré les petites longueurs dont j'ai pu parler précédemment. C'est un livre qui fait mal, mais...
Il y a un lecteur, j'ai lu, qui disait, on en ressort non pas comme si on avait été roué de coups, mais comme si on nous avait abandonné au fond d'une cave humide et sombre.
Oui, parce qu'il n'y a pas d'espoir, finalement. Je n'ai pas compté la fin, mais il n'y a pas d'espoir.
Non.
On a l'impression que ça va durer et durer encore.
Mais de toute façon, y en a-t-il pour les migrants?
Non.
Mais je veux dire, souvent, tu sais, quand on voit... Justement, on en parlait un petit peu hors d'onde avec Agnès Gruta. Bon, vous savez qu'Agnès écrit beaucoup. D'ailleurs, là, quand je lui ai dit de quel livre vous alliez parler et du thème, elle a tout de suite noté le titre en disant ça, je veux lire.
Absolument, je veux absolument le lire, ce livre qui me paraît d'une grande actualité.
Oui.
Même si je me permets, c'est une réalité qui est très dure. Et puis, on a pensé qu'il y a eu une entente là, entre l'Europe et la Turquie, on a pensé que ça allait, bon, peut-être un peu tarir le flot des arrivées, ou en tout cas, ou au moins mieux le gérer, mais pas du tout. Ça continue, les gens continuent à traverser, des milliers de gens continuent à affluer vers la Grèce ou vers l'Italie et tout. Mais voilà. Mais j'aimerais quand même m'inscrire en faux parce que c'est sur le fait, il y a de l'espoir pour certains.
Oui.
Il y a quand même de l'espoir pour certains. La majorité survive et la majorité.
Oui, mais comment?
Et bon, on en a accueilli ici un peu,
oui,
au Canada.
Oui,
il y en
c'est
a.
Vrai.
Bon.
C'est vrai.
Alors, l'espoir existe. L'espoir existe, mais la réalité est extrêmement dure. Et je vais lire ce livre avec, je ne sais pas si c'est avec plaisir, mais avec grand intérêt.
Je parlais du roman. Dans le roman, bien sûr, je dirais que c'est sombre, c'est violent. Dans le roman même, on n'a pas l'impression que les migrants vont s'en sortir facilement. Mais le livre est d'autant plus intéressant que, justement, on sait que la Turquie, récemment, a tourné un peu vers la droite, pour ne pas dire l'extrême droite. Alors, de voir ce livre-là qui arrive comme un coup de poing, ben, moi, j'espère qu'on pourra encore écrire ce genre de livre en Turquie dans les années qui viennent.
Vous savez, on va peut-être finir là-dessus. On lui a demandé l'origine de ce roman. Souvent, l'idée de ces romans lui vient, et là, il parle, il le dit, comme pour nombre de grands écrivains, et je rappelle son nom, M. Gundey, ça s'écrit G-U-N-D-A-Y. Il dit donc que l'idée de ces romans lui vient, comme pour nombre de grands écrivains, d'un simple fait divers.
Oui, oui.
Le déclic fut cette fois quelques lignes d'un journal rapportant l'arrestation dans une petite ville turque du littoral de la mer Égée d'une bande de malfrats. Ces gens-là fabriquaient de faux gilets de sauvetage bourrés de sciure de bois et ne flottant pas, destinés à être vendus aux familles de clandestins qui tentent de gagner une île grecque sur des embarcations de fortune. C'est l'avidité mais aussi la lâcheté poussée à leur extrême car ces salauds savaient qu'ils ne seraient jamais confrontés à leurs victimes si la barque chavirait. La réalité ne peut pas être plus violente, de dire Hakan Gundey, expliquant que c'est après, il a dit après, il ne reste plus qu'à se mettre devant l'écran de l'ordinateur et les mots viennent tout seuls.
Et peut-on dire encore une fois que la réalité dépasse ici la fiction? C'est horrible, mais malheureusement, ça se passe ou ça s'est
exactement
passé comme ça.
Oui. Exactement. Et nous allons peut-être continuer d'en parler, ou je ne sais pas encore vers quoi notre conversation nous amènera avec Agnès Gruda, mais encore une fois, quand je le dis souvent, la vie est bien faite et on ne fait pas souvent exprès, mais il y a comme ça des livres qui tombent à point nommé avec les invités qui sont autour de cette table et... Eh bien, nous avons vécu cette magie-là de la radio une nouvelle fois en votre compagnie, Gérald Cousineau. Merci.
Au plaisir.
On rappelle le titre « Encore comme encore » de Hakan Gundey. Merci. Au revoir, Gérald.
Au revoir.
Oui, pas facile, hein, ce bouquin. « Encore » de Hakan Gundey. Mais vous savez, parfois, les livres difficiles sont des romans nécessaires.
La plus belle pour aller danser pour mieux évancer toutes celles que tu as aimées. Ce soir je serai la plus tendre quand tu me diras tous les mots que je veux entendre murmurer par toi. Je fonde l'espoir que la robe que j'ai voulu et que j'ai cousue point par point sera chiffonnée et les cheveux que j'ai coiffés décoiffés par tes mains. Quand la nuit refermait ses ailes, Jésus vont rêver que dans la soie et la dentelle, un soir je serai la plus belle pour aller danser.
Et puis, pour finir cette émission, je vous propose un autre article qui fait chaud au cœur, un autre papier rassurant tel qu'il a été lu dans l'émission « Les Paractualités ». Il s'agit d'une femme, oh, elle n'est pas toute jeune. Écoutez bien ça. La doyenne de l'Alberta fête ses 110 ans. Pour son dernier anniversaire, le 4 octobre, Mme Jenny Sutherland a reçu une lettre de Rachel Notley, de Justin Trudeau et de la reine Élisabeth II, figurez-vous. Une célébration en grande pompe pour cette femme qui, à 110 ans, est la doyenne de l'Alberta. Mme Sutherland, qui n'a qu'une année de moins que la province qui a intégré la Confédération canadienne en 1905. Des changements, oh oui, elle en a vu depuis sa naissance en 1906, deux guerres mondiales, la Grande Dépression, l'arrivée des avions commerciaux, des téléviseurs, les premiers voyages dans l'espace, les ordinateurs et bien sûr Internet. Ses parents, les Thompson, ont émigré de la Norvège au Minnesota dans les années 80. Et d'ailleurs, la centenaire peut encore dire quelques mots dans la langue de ses aïeux. Ayez la foi, dites la vérité, gardez votre calme, c'est mon meilleur conseil pour garder la santé, de dire Mme Sutherland qui a eu 8 enfants, dont une fille décédée 2 jours après sa naissance. Aujourd'hui, Jenny Sutherland est la grand-mère de 26 petits-enfants et compte 129 ascendants directs. Sa fille est née à 88 ans. Voilà, ainsi s'achève l'émission Le National. J'espère que vous avez pris plaisir à entendre ces segments que vous aviez peut-être ratés tout au long de la semaine lors de notre programmation ici sur Canal M. Alors, je vous souhaite une belle fin de vendredi, une très belle fin de semaine. Je remercie l'équipe qui travaille avec moi, qui collabore et vraiment travaille fort, fort, fort pour vous présenter cette émission à chaque semaine. Allez, à la semaine prochaine.